Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time. Benoît Boutron, Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport que vous êtes, mes chers auditeurs. C'est bien évidemment Bartoli Time. Un Bartoli Time, nous allons comme d'habitude revenir avec précision, enthousiasme et toujours la petite pointe d'humour qui nous caractérise sur les sujets brûlants du week-end. Vous le savez, n'hésitez surtout pas à composer le 32-16. Vous voulez réagir sur un sujet, vous n'êtes pas d'accord avec moi ou simplement exprimer votre point de vue, composez le 32-16. Le standard est ouvert dès maintenant car Bartoli Time, c'est aussi une émission d'interaction avec vous, mes chers auditeurs. Et puis enfin, normalement, c'est le moment où on souhaite la bienvenue à Jean-Christophe Drouet, mais comme bien évidemment, il n'est pas là car il est en vacances, je dis en revanche un immense bonsoir à Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Marion, ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Bon, écoute, ça va, impeccable. On a un programme dense et magnifique pendant une heure jusqu'à 20h. Bartoli Time. À la une de Bartoli Time, cette finale qui était tant attendue, elle a rendu son verdict, le duel des frères Lebrun en tennis de table. La victoire du frère aîné, Alexis, qui a battu le cadet Félix, 17 ans, après un match d'un 6-7.
Il a fait pleurer son petit frère.
Il l'a fait pleurer. Et la
c'est
magie,
méchant.
La magie de Bartoli Time, c'est que les deux seront avec nous dans un instant. Oui. Restez bien là, plein de fraîcheur. Donc on va se régaler avec eux. À 19h25, on va parler de foot tout de même dans Bartoli Time. Bartoli Baston. Marion, tu veux revenir sur cette défaite des Bleus contre l'Allemagne hier soir. Pour toi,
oui,
ça n'est qu'un accident. T'en as marre qu'on tire des conclusions hâtives comme ça après une défaite.
Exactement.
Bon.
Ne faut pas, c'est pas bien.
Eh bien, on fera le point. Appelez-nous à 32-16 pour participer au débat. On sera avec Arthur Perrault, suiveur des Bleus. Et puis encore un invité à 19h40, Florent Malaudou, le capitaine de l'équipe de France de natation. Une rentrée réussie. 250 mètres.
Que des invités de précis.
Deux victoires. Et lui aussi,
c'est un
candidat pour le titre de porte-drapeau pour la délégation française. On en parlera avec lui.
On va lui poser la question.
D'ailleurs, tu nous donneras ton avis. Est-ce que c'est le favori pour être porte-drapeau ? J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
Bon. Je te dirai tout.
Marion, tu le sais, RMC est une radio généreuse. C'est donc le retour du coffre RMC. On offre jusqu'à 50 000 euros.
Bon,
à 50 000 euros, déjà, c'est pas mal.
Mais faut... Si j'étais vraiment fidèle aux inconnus, je devrais dire les milliards, pour ceux qui connaissent vraiment le sketch.
Oui, mais bon, on va s'arrêter à 50 000 euros, si ça ne te dérange pas. C'est déjà pas mal. Alors, dès que vous entendrez ce signal sonore...
C'est énorme, tu veux dire.
Vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 7-32-16. Je précise que ça peut tomber à tout moment, dans Bartoli Time, pendant une pub.
Soyez attentifs.
Il y aura une alerte d'ici 20h. Donc restez bien avec nous. Et vendredi 29 mars, la semaine prochaine, l'un d'entre vous aura la chance d'intervenir. Si vous êtes sélectionné, vous gagnez 2500 euros. Mais vous pouvez choisir de remettre cette somme en jeu et tenter de gagner, pourquoi pas, 50 000 euros. Donc vous aurez 5 minutes dès que l'alerte tombe pour envoyer coffre au 7-32-16. C'est parti pour Bartoli Time. Et on parle tout de suite de tennis de table.
La troisième balle de match aura été la bonne. Alexis a toujours l'ascendant sur son frère. Il en a sauté à pieds joints sur la table au milieu du court. La troisième balle de match, évidemment, est la bonne. Félix Lebrun en pleure, hein, avec la serviette pour évidemment se consoler. Il espérait récupérer enfin ce titre de champion de France. Mais encore une fois, il s'incline contre son frère. Il aura eu les balles de 7 dans cette sixième manche pour revenir à 3 partout. Mais finalement, Alexis en aura repoussé 6. Et à la troisième balle de match, il aura conservé son titre de champion de France, le troisième champion. Et là, Alexis Lebrun qui va demander un clapping.
RMC, la une de Bartoli Time.
Un duel fratricide qu'on attendait depuis des semaines. Et ça s'est déroulé dans le plus bel endroit possible, à Montpellier, chez les frères Lebrun. Ce duel fratricide pour le titre de champion de France. Et c'est l'aîné qui s'est imposé en 6-7, victoire d'Alexis Lebrun contre son frère Félix. Alexis, 20 ans, troisième titre de champion de France d'affilée. Félix, lui, est cinquième joueur mondial. Il est mieux classé que son frère aîné, mais il a dû s'incliner. Alexis et Félix Lebrun sont en direct avec nous dans Bartoli Time.
Oui, bonjour. Alors je suis très contente. Bonjour tous les deux. Je suis très contente de vous avoir. Alors Alexis, comment te dire, c'est pas bien de battre son petit frère. Tu vois, j'étais vraiment normalement, on laisse les petits gagner, tu sais. Mais ça doit vraiment pas être facile. Franchement, à proprement parler, c'est vrai que nous on a ça en tennis avec les sœurs Williams et ça doit vraiment être très 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 compliqué d'affronter un membre de sa famille. Donc j'aimerais déjà revenir sur votre de sentiment, on va dire intérieur au-delà du score, du résultat et de votre niveau de jeu. Comment ça se passe pour gérer ces émotions quand même en face de soi, lorsqu'on est en face de soi, membre de sa famille?
On a pris l'habitude parce que on a été obligé de se rencontrer dans des matchs à enjeu, donc on a appris à le faire depuis petit parce qu'on s'est déjà joué dans les catégories jeunes. Donc au début c'était compliqué, ça prenait le pas sur le match et on faisait pas des vrais matchs en fait. Félix me laissait gagner et on se battait pas l'un contre l'autre, donc on a appris à le faire et maintenant c'est vrai qu'on fait toujours des matchs assez bons et en tout cas il y a toujours du duel et on a appris à juste en fait mettre de côté pendant le match. C'est juste moi, mon adversaire qui est numéro 5 mondial et qui joue super bien au ping-pong, et pour lui je pense que c'est la même chose. On essaye juste de faire abstraction, mais c'est tout.
Alors tu l'as dit Alexis, effectivement vous avez 3 ans d'écart, mais c'est Félix, 17 ans, qui est mieux classé que toi, 5e au niveau du classement. D'ailleurs je crois que ça va enchaîner assez vite pour vous parce que vous partez en Corée du Sud demain. Comment on arrive à gérer cette à la fois cette différence d'âge qui est assez proche et la tactique à adopter dans ce genre de match, parce que bien évidemment vous connaissez par cœur aussi.
C'est vrai que on se connaît vraiment très très bien, on s'entraîne ensemble quasiment tout le temps, on voyage ensemble, on a les mêmes le même staff autour de nous, donc c'est juste on sait l'un et l'autre qu'on se connaît, on sait que ça va être difficile de surprendre l'adversaire, Félix dans ces cas-là, mais on essaye toujours de trouver un petit truc qui peut le perturber. Je pense notamment les deux premiers services, j'ai essayé de servir deux fois dans son revers directement, qui est quelque chose que je fais rarement, et Félix aussi a essayé quelques trucs un peu différents de ce qu'il a l'habitude de faire, mais puis après on joue, forcément, on se connaît, donc on joue et on essaye de se battre.
Les frères Lebrun sont en direct avec nous dans Bartoli Time sur RMC. Alexis, triple champion de France, qui vient de battre son frère Félix. Alexis a 20 ans, Félix en a tout juste 17. Et c'était une finale complètement dingue. Au début, on a vu Alexis faire la différence facilement sur les deux premiers sets. 11-3, 11-6. Ensuite, belle réaction d'orgueil de Félix. 11-8, 11-9. Alexis reprend l'avantage 11-5 avant ce dernier set décisif, le 6e.
16-14,
complètement dingue. Ouais. Juste un mot quand même avec Félix, parce que c'est ce qui nous a marqué sur cette finale. Félix, on avait l'impression qu'il y a eu un jeu, une guerre psychologique entre vous. Et l'aîné a fait comprendre qu'il était le plus grand. C'est un peu ce qu'on a perçu à la télé. C'est-à-dire qu'on sentait qu'Alexis te regardait pour trouver ton regard et peut-être te perturber. Et toi, au contraire, tu faisais un peu tout pour fuir son regard. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'as vécu comme ça? Tu voulais rester concentré sur ton jeu, Félix?
Je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. Pour moi, c'était surtout de me concentrer dans la tactique. Parce que le début du match, c'était difficile pour moi. Il m'a clairement dominé pendant 2 sets. Et j'avais forcément un peu peur de prendre 4-0 ici à Montpellier. Il y avait beaucoup de public, j'avais envie de faire un grand match, donc c'était histoire de, on va dire, me rebooster intérieurement. Je pense que peut-être que je l'ai pas regardé, mais c'était plus pour me booster intérieurement plutôt que d'éviter son regard.
Parce que lui, il n'a pas hésité. Lui, il n'a pas hésité à regarder Alexis.
Ça, c'est le grand frère qui taquine toujours le plus jeune. Oui. J'ai une question pour toi, Félix. Justement, c'est cette entame un petit peu compliquée. Tu la mets sur quel élément? Est-ce que c'est vraiment un stress particulier parce que tu vois champion de France pour la première fois? Est-ce que c'est le fait quand même d'affronter ton grand frère, même si vous l'avez fait à de nombreuses reprises? Il y a toujours cet élément psychologique qui rentre un petit peu en jeu, ou c'est vraiment lié à lui, son niveau de jeu, qui t'a tout simplement dérangé?
Peut-être un peu des trois. C'est difficile à dire. Franchement, j'ai pas vraiment d'idée. Faudrait que je le regarde pour savoir. Mais déjà, il a joué un début de match exceptionnel. Puis moi, je pense que j'ai été en dessous de mon niveau pendant 2 sets et demi. Justement, je sais pas vraiment pourquoi. J'ai essayé. Après, forcément, un peu tendu de jouer Alexis à Montpellier. C'était quelque chose de grandiose. Donc, on avait envie de bien faire. Et au début, quand ça se passe mal, 1-0, 2-0, que ça défile, j'avais l'impression de passer à côté de mon match. Donc, je me tendais encore de plus en plus, on va dire. Et lui de jouer de mieux en mieux comme il commençait à mener. Et heureusement pour moi et pour tout le monde que je gagne ce 3e set et qu'après ça relance le match avec des super échanges derrière.
Alors Félix, bien évidemment, cette année, c'est une année olympique, c'est Paris 2024. Quel va être le programme pour vous deux, à partir de maintenant? Donc je crois que vous partez en Corée du Sud demain, mais quel est votre programme de tournoi? La qualif pour les JO, est-ce que vous êtes déjà qualifié? Est-ce qu'il y a une espèce de concours à passer? Voilà, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour nos auditeurs qui nous écoutent.
Ouais, pas de souci. Du coup, bah nous on part en Corée lundi. Après, on rentre un petit peu, puis on repart en stage en Allemagne et pour préparer la Coupe du Monde qui se déroule en Chine. Voilà. Donc là, il y a pas trop d'arrêt, on va dire. On va continuer à s'entraîner pour préparer au mieux les Jeux Olympiques. Et puis pour la qualification, c'est un choix de la fédération. Après, bien sûr, avec l'aide du classement mondial et avec l'aide des résultats qui se passent au WTT. En juin, je crois, fin juin 2024. Donc, il reste encore un peu d'étapes avant d'être sûr d'être qualifié.
Ouais, il y a peu de doutes tout de même.
Mais il y a deux qualifiés pour les épreuves de simple. Et en compétition par équipe, vous avez droit à trois garçons. C'est bien ça?
C'est ça, oui.
Bon, okay. Les frères Lebrun seront aux Jeux Olympiques. Hein. On a peu de doutes
oui.
quand même.
Non, Alexis mais oui, mais bon, tu Félix, sais, il y a quand même une certaine qualif, il y a un processus
t'as raison,
quand même.
Tu as raison de rappeler le système de qualification. En tout cas, ce sont les invités exceptionnels de Bartoli Time sur RMC, Alexis et Félix Lebrun. Une question tout de même pour Alexis, parce que ton rôle est particulier, Alexis. Toi, tu es l'aîné de la fratrie. C'est vrai que c'est toi qui as percé au plus haut niveau le premier. Ensuite, il y a eu ton frère qui atteint un classement qu'on n'avait jamais vu depuis des années et des années, depuis Jean-Philippe Gatien. Il est 5e mondial à 17 ans.
92,
ça veut dire que c'est lui un peu qui attire la lumière. Est-ce que ce rôle est particulier pour toi? Et autre question un peu pour toi, c'est aller plus d'ordre sportif, c'est que à chaque fois que tu le joues, tu le bats. Donc est-ce que toi, tu as vraiment l'angoisse de l'affronter aux Jeux Olympiques, ou est-ce que tu te dis finalement, ce serait un bon tirage de tomber sur Félix au jeu?
C'est méchant, ça, comme question. Ouais, c'est méchant, c'est mauvais.
Alors déjà, pour les Jeux Olympiques, il me semble qu'on peut pas s'affronter parce que les pays, je crois qu'il y a une protection
avant la finale au maximum,
jusqu'à la finale. Donc
vous croisez en finale.
Donc si je l'affronte en finale, oui, bon, évidemment que je serai le plus heureux du monde, mais on sait très bien à quel point c'est difficile.
Il y aura les Chinois quand même à battre avant.
C'est ça, on se prend pas la tête avec ça parce qu'on sait que ça ne peut pas arriver. Donc voilà. Et après l'autre question, c'était quoi?
C'est comment tu perçois en fait l'ascension de ton frère, parce que c'est vrai que c'était l'attraction. Félix, oui, 17 ans, 5e mondial. Toi, le grand frère, l'aîné, qui est le précurseur parce que c'est ton 3e titre d'affilée de champion de France. Comment tu le vis tout simplement?
Déjà en fait on est arrivé au même moment, même Félix est arrivé un peu plus tôt que moi malgré son âge. C'est lui qui a fait la première grosse perf sur le circuit international en novembre 2021, et puis après moi j'ai commencé à bien jouer en janvier 2022 au niveau international. Et c'est vrai qu'on est arrivé en même temps sur le circuit, et on s'aide en fait au quotidien à avancer comme ça. Donc moi je suis juste super fier de lui, et puis pour l'équipe aussi, l'équipe de France, c'est exceptionnel d'avoir un leader comme lui. Et du coup je suis juste content pour lui, et c'est vrai que moi ça me fait un adversaire de poids au quotidien pour m'entraîner, donc j'espère que je vais pouvoir le rattraper assez rapidement.
Alexis et Félix Lebrun qui sont les invités exceptionnels de Bartoli Time sur RMC, Marion.
Oui, absolument. Alors moi j'aimerais revenir sur cet engouement médiatique qu'il y a quand même autour de vous. Alors sans faire offense au ping-pong et au tennis de table, de manière générale c'était pas forcément un sport extrêmement suivi en France. Là il y a vraiment un engouement médiatique qui est énorme et colossal, et c'est génial, et moi je trouve ça vraiment génial. Comment vous le vivez au quotidien? Est-ce que ça, c'est compliqué parfois? Est-ce que c'est plutôt flatteur? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Voilà, comment vous vivez cette ascension médiatique?
Ouais, c'est clair, il y a un engouement qui se passe qui est exceptionnel. C'est un régal, on joue devant beaucoup de public là, le FDI Stadium était rempli avec une ambiance de folie, donc forcément pour jouer c'est toujours un plaisir. Et puis après les médias, on essaye de gérer, de pas trop en faire, de rester concentré sur le tennis de table. Et par contre bien sûr, si on peut aider au développement médiatique, on va dire, avec de par nos performances, c'est encore un plus.
Et juste pour prolonger la question de Marion, parce que vous faites le buzz sur les réseaux sociaux notamment, on voit les highlights de vos matchs, etc. Est-ce que vous avez reçu sur les réseaux des messages de grandes stars du sport français qui veulent vous défier, vous affronter sur un match de ping? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que vous avez des noms à nous citer?
Stéphane Brun, il a dû écrire.
Est-ce qu'il y a des stars comme ça qui vous ont contacté pour vous défier, les gars?
Pas pour nous défier, mais on a déjà joué un petit peu avec Florent Manodou, Valentin Porte, lors d'un événement qui a eu lieu au FDI Stadium. Donc on a bien rigolé. Il me semble qu'on avait joué un petit peu ensemble ou au panier de balle, je sais plus. Et puis après, bah, on a reçu des messages, ouais, de quelques sportifs. Je pense notamment à Raphaël Varane qui nous a envoyé un message de félicitations. Et donc, bah, ça faisait super plaisir. Et c'est vrai que bah, c'est toujours kiffant de recevoir des messages comme ça de gens qui ont fait des belles choses dans leur carrière.
Alors moi, je veux bien jouer contre vous, mais alors vous mettez pas d'effet dans la balle, parce que sinon je vais pas en toucher une, et ça va m'énerver, parce que je suis très mauvaise perdante. Je t'ai trouvé très zen, d'ailleurs, Félix, sur la célébration de ton frère qui saute sur la table. Je t'avoue que moi, si mon frère m'avait battu, qu'il avait sauté sur la table, ça aurait pu éventuellement un peu mal se passer. Je te le dis comme ça, mais je t'ai trouvé vraiment très très zen face à la célébration de ton frère. Ça t'a pas énervé du tout?
Non, bah déjà quand je venais de perdre, j'ai pas trop regardé, j'avoue. J'étais juste déçu. Et puis après, c'est normal qu'il profite. Je sais qu'en plus, bah il aime bien vivre des émotions comme ça. Forcément, tout le monde aime bien gagner des titres. Donc non, c'est cool qu'il ait pu profiter, gagner un titre à Montpellier. Bah c'est génial pour lui. Mais j'avoue que moi, j'ai pas trop prêté attention à sa célébration.
Ah bon, on te le dit, il a sauté sur la table, il a lancé un clapping, il était à bloc. Hein.
Oui.
Comme un fou. Non,
faut bien profiter.
Tu as raison, je te taquine. Vos parents, ils le vivent comment, ce genre de match? Ils viennent vous voir, ils regardent même pas, parce que c'est impossible de prendre parti, bien sûr, pour l'un ou pour l'autre.
Donc
ça se passe comment pour eux?
Non, bah ils sont en vacances, on va dire. Ils regardent et ils profitent juste du match. Bah là, ils ont pas mal bossé ce week-end parce qu'ils étaient dans l'organisation, donc un peu toute la famille a bossé ce week-end. Mais non, sinon ils profitent juste du match et ils regardent et puis ils sont contents pour l'un et déçus pour l'autre et c'est comme ça, ils profitent juste du match.
Bon, eh ben merci à tous les deux en tout cas d'avoir été avec nous et félicitations encore. Magnifique finale, grand moment de sport qu'on a suivi.
Absolument.
Sur RMC. Le troisième cycle de champion de France d'Alexis.
Et puis on vous suivra pendant les Jeux Olympiques, bien évidemment.
Et Félix qui est plein de promesses. Et ouais, on vous suivra à fond pendant les Jeux. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
19h16 sur RMC, quelle fraîcheur pour les frères Lebrun. Absolument. On s'est régalé avec eux, Mario.
C'est rafraîchissant, tu l'as dit.
Ouais, exactement.
Mais totalement. Et puis vraiment, ce sont des parfaits ambassadeurs pour ce sport. Ils sont jeunes, ils attirent beaucoup de monde. Ça va vraiment donner une lumière différente aussi sur ce sport qu'est le tennis de table. Mmh. Et ce sont les parfaits représentants de la délégation française pour ce sport-là au JO. Donc, on leur souhaite vraiment, vraiment d'aller remporter des médailles pour l'équipe de France. Ça sera absolument fantastique pour eux.
Ils seront très attendus. On les suivra avec beaucoup d'attention. 19h16, Marion, on revient dans un instant. Marion va bastonner. Attention, Marion est énervée. On a perdu contre l'Allemagne 2-0. Elle en a marre des coups. Conclusion hâtive, ce n'était qu'un accident pour Marion Bartoli, cette défaite de l'équipe de France. Venez réagir, venez l'interpeller au 32-16 si vous n'êtes pas d'accord. A tout de suite sur RMC.
RMC Bartoli Time. Benoît Boutron.
Marion Bartoli. 19h21 de retour dans Bartoli Time sur RMC. Alors normalement, Benoît, c'est le moment où je vais m'énerver, n'est-ce pas?
Oui, c'est un rituel tous les dimanches soirs, tu t'énerves.
Exactement.
À 19h20.
Normalement, j'aime bien venir avec Jean-Louis. Tu vois, avec Jean-Louis, on se titille, on se chamaille et on n'est jamais d'accord.
Et bah alors,
Jean-Louis, il a fui, il a pas eu le courage.
Il a fui, c'est la trêve aussi pour Jean-Louis le dimanche soir, mais on va essayer de t'énerver quand même parce que ça nous régale. Toutes les semaines, on va parler de l'équipe de France. Je précise juste que dans un quart d'heure, on aura encore un invité exceptionnel. On a reçu les frères Lebrun il y a quelques minutes. On va recevoir Florent Manaudou, le capitaine de l'équipe de France de natation. Une rentrée réussie pour lui. Il se rêve en porte-drapeau de la délégation française. Il nous dira tout dans un quart d'heure. Dans Bartoli Time, mais on y va sur l'équipe de France.
Ce ballon pour les Allemands et un premier geste et une frappe.
Oh,
et le but. Oh,
exceptionnel.
6 secondes de jeu, une frappe exceptionnelle. Moussiala qui la récupère face à Samba, le crochet. Moussiala est passé, faut protéger le but derrière Havertz. Et 2-0 pour l'Allemagne. Coup de sifflet final. La France est battue à Lyon sous les sifflets du Groupama Stadion. On peut parler de naufrage. Naufrage en mars. L'équipe de France n'a pas su être orgueilleuse.
RMC Bartoli bastonne.
Ah oui, ça bastonne.
Naufrage, non mais Jeannot, naufrage. Non. Alors, mais tout de suite, Jeannot. Bah, ne t'emballe pas, mon Jeannot, je t'adore, mais là, franchement.
Ce qui est vrai, c'est que littéralement, on a été dominé du début à la fin, de la 7e seconde.
Mais on n'a pas joué.
Ah oui, de la 7e seconde à la dernière. L'équipe de France, battue 2-0 par l'Allemagne hier soir à Lyon. C'est un avertissement à moins de 3 mois de l'entrée en liste des Bleus à l'Euro contre l'Autriche. Ce sera le 17 juin, on va en parler avec Arthur Perrault, suiveur de l'équipe de France pour RMC Sport. Salut Arthur.
Salut Benoît, salut Marion, bonsoir à tous.
Bon, bonsoir Arthur.
Marion pense que les Bleus n'ont pas joué, n'ont jamais été présents dans cette soirée. Est-ce que tu peux nous raconter comment ils l'ont vécu justement ce match et tout ce qui en a découlé?
Bah, il suffit de revoir les visages de Benjamin Pavard et Aurélien Tchouaméni au moment où ils se sont présentés face aux médias en zone mixte pour tenter d'expliquer ce naufrage. Pour les deux, on parle en effet d'une piqûre de rappel, d'incompréhension dans les efforts que les uns et les autres ont pu fournir sur le terrain. Mais surtout, en coulisses, dans le vestiaire après la rencontre, eh bien, les joueurs de l'équipe de France sont apparus émoussés, mais aucune inquiétude ne gagne, même d'ailleurs au lendemain de ce match, les hommes de Didier Deschamps, le sélectionneur qui lui aussi s'est montré très réaliste en conférence de presse pour tenter d'expliquer cette soirée cauchemardesque. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons qui sont avancées. La principale, c'est que depuis le début de ce rassemblement, l'heure est à la décompression pour les 23 joueurs réunis à Clairefontaine. Par exemple, hier, au Groupama Stadium, sur les 11 titulaires, 7 joueurs sont encore en lice en Ligue des Champions avec leur club. Alors évidemment que les Bleus ont montré un manque d'envie inhabituel. Il y a plusieurs arguments. Je dis pas qu'ils sont tous bons, mais il y en a plusieurs. Ce qui est certain, Marion, c'est que les Bleus ont montré un manque d'envie inhabituel. Alors, ça peut être aussi porté par la bonne ambiance et les victoires récentes. Mais il y a un dernier argument qui est à prendre en compte et qui est quand même très important. C'est la multitude de pépins physiques depuis le début de la semaine.
Exactement.
Qui n'ont rien arrangé. Le staff a eu beau tout essayer pour relancer la machine, soigner ses petits bobos. Mais force est de constater que ça a été trop juste face à cette très bonne équipe allemande, parce qu'il faut quand même le souligner. Est-ce que ça ira mieux face au Chili? Évidemment que la question se pose, mais évidemment que Didier Deschamps, comme il le fait à chaque match amicaux, eh bien, il risque de faire tourner très largement son équipe pour ce deuxième match.
Merci Arthur, tu restes avec nous. Marion, pour toi, c'est simple, c'est un accident ce qui s'est passé hier soir.
Alors, je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Arthur. Pour moi, c'est effectivement un accident, mais qui découle de plusieurs éléments qui sont venus s'enchaîner. Effectivement, malheureusement pour Didier, je pense pas qu'il voulait absolument jouer entre guillemets ce non-match en se disant bah finalement c'est qu'un match amical, on s'en fout. Non, parce que ça reste un match contre l'Allemagne et que ça reste effectivement des matchs importants et que de toute façon on connaît le caractère de vainqueur de Didier. On l'a très bien vu à sa tête hier qu'il était dépité par cette performance. Mais cette performance, elle vient après malheureusement trop de pépins physiques, un 11 de base qui n'est pas celui de l'équipe de France, effectivement des joueurs manquants qui sont des pions essentiels au système de Didier, en défense Upamecano qui a commencé le match où pour moi, et on le voit au Bayern, il est en très grande difficulté et en méforme depuis le début de l'année, et ça s'est vu hier en défense, c'était absolument catastrophique. Donc il y a eu un enchaînement d'éléments qui malheureusement n'ont pas permis à cette équipe effectivement de se relancer parce que il y a de la fatigue, parce que il y a un match de Ligue des Champions et il y a des matchs de Ligue des Champions qui vont arriver et les premiers dans deux semaines et que c'était effectivement un match amical. On ne peut pas me dire que sur un match officiel, un quart ou une demi ou une finale de l'Euro, l'équipe de France va se regarder en se disant « Ah ouais, on a pris un but au bout de 7 secondes, on arrête de jouer, on a perdu le match à cause de ça. » Faut quand même arrêter. Même, je regardais les attitudes de Kylian Mbappé hier, on en parlait hors antenne. Non mais on ne voit jamais Kylian lors d'un match hyper important rentrer en deuxième mi-temps alors que son équipe est menée 1-0 et faire coucou dans le public parce qu'il salue des personnes de son entourage qu'il a vu. Enfin, je veux dire, faut quand même être lucide sur aussi l'engagement mental, parce qu'on parle effectivement de niveau de jeu, des fondamentaux qui n'ont pas été respectés, de l'agressivité sur le porteur du ballon, de tous les fondamentaux qui font qu'effectivement un match est réussi ou non. Mais ces fondamentaux-là, ils partent de l'engagement mental qu'un joueur va mettre. Et bien sûr qu'un joueur qui donc va répercuter sur l'autre et qui va faire qu'une équipe entière va mettre cet engagement-là. Et on a très bien vu qu'hier, pour la plupart, en tout cas des titulaires incontestables de l'équipe de France, cet engagement n'y était pas. Que pour des jeunes qui jouent un peu leur place, qu'ils aient essayé mais qu'ils ne soient pas arrivés, là je suis plus d'accord avec cette théorie. En revanche, pour les titulaires indéboulonnables, incontestables, on voyait quand même bien Arthur qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue et de manque d'envie d'implication sur ce match.
Je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Hein. Mais vas-y Arthur.
Ah. Ouais. Non mais alors peut-être pour t'aider à rejoindre notre avis. Alors, quand on parle de décompression, c'est vraiment le mot qui revient beaucoup d'ailleurs depuis ce matin, à la fois chez les joueurs, leurs entourages et le staff de l'équipe de France. Quand on dit décompression, c'est vraiment au sens large. C'est-à-dire que certes, depuis lundi à Clairefontaine, voilà, il y a une bonne ambiance. Peut-être, c'est pas par manque de sérieux, mais voilà, les joueurs se disent intéressant. On vient à Clairefontaine, on sort d'un début de saison infernal avec des échéances importantes qui arrivent. On parle de la Coupe d'Europe, mais je suis désolé, il y a certains clubs aussi qui jouent, qui sont au combat en championnat pour les trois premières places. Voilà, exactement. Mais c'est aussi une question de santé presque. C'est-à-dire que les arguments qui sont avancés par certains joueurs, c'est les organismes. Voilà, on se préserve aussi lors de ce type de rendez-vous.
Le seul rassemblement qui est en 2024 avant l'Euro, donc c'est une colonie de vacances. C'est un séminaire d'entreprise.
Mais regarde les stats de l'équipe de France depuis la finale de la Coupe du Monde.
Et mais regarde les
c'est
adversaires.
11 matchs, c'est 11 matchs, c'est que 2 défaites, c'est 2 défaites
mais
en match.
Elle est là l'erreur, Marion, je pense.
Mais tu peux pas sur tous les matchs être au taquet à 100%, c'est impossible, c'est ingérable pour un athlète.
Marion, l'erreur que tu commets, c'est que le match d'hier, c'était le seul match réellement compétitif que tu avais en 2024 avant la liste pour l'Euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu devais te jauger face à une équipe qui, certes, était en difficulté les dernières semaines, mais qui reste le pays et une grande nation mondiale. C'était l'occasion pour certains joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu.
C'est justement
de se révéler. C'était l'occasion pour un Marcus Thuram de s'imposer en numéro 9 dans cette équipe de France, pour une charnière centrale de prouver qu'elle a des qualités, pour un gardien numéro 2 de prouver qu'il mérite de jouer aussi. Et je suis désolé, mais on n'a rien vu. Il n'a pas fait un mauvais match. Les autres ont été en grande difficulté. Marcus Thuram, il a été transparent. La défense centrale, on ne l'a pas vu du tout. Moi, je ne comprends pas qu'on banalise un match contre l'Allemagne. À la rigueur, que tu fasses tourner au Vélodrome contre le Chili mardi, d'accord, ok. Mais l'Allemagne, c'est le seul match intéressant d'ici à l'Euro. Comment tu peux
dire qu'ils sont déconcentrés,
ils sont en Ligue des Champions, ils sont encore en lice, ils ont besoin de se reposer, mais ça n'existe pas.
Mais Benoît, c'est comme si tu me parlais d'une équipe qui n'avait jamais joué ensemble, qui n'avait pas de référence. Mais il vient de faire une finale de Coupe du Monde. Regarde ce que les autres équipes candidates, éventuellement, en tout cas, être dans la partie des favoris pour le prochain Euro, ont fait. L'Angleterre perd sur le Brésil. La Belgique fait 0-0 contre l'Irlande. La Croatie fait 0-0 contre la Tunisie.
Le Brésil, c'est peut-être plus fort que l'Allemagne en ce moment, tu vois. Perdre contre le Brésil.
Ça fait qu'un 0.
C'est que l'Angleterre a fait une bonne prestation.
Et l'Italie, qui est tenante du titre de l'Euro, gagne à l'arrache contre le Venezuela.
Mais tu peux pas demander
à des sportifs de faire des années complètes au taquet avec autant d'échéances. C'est pas possible.
Mais Marion, c'est un France-Allemagne. C'est pas un match lambda. C'est pas un match. Mais non, ça n'a rien d'amical, un France-Allemagne. C'est pas possible. Quand tu joues les Allemands, tu les joues avec sérieux. La preuve, c'est qu'eux, qui sont mauvais tout le reste du temps, ils arrivent à se sublimer contre nous. De la défaite, contre l'Allemagne à chaque fois.
Mais c'est parce que c'est des matchs amicaux. Regarde le dernier match contre les Pays-Bas en octobre, c'est la France qui a gagné. Mais ils ont été gagnés aux Pays-Bas, donc tu as des références sur les matchs importants.
Certain,
il répond présent.
Moi je suis pas d'accord.
Ce qui est certain, Benoît et Marion, et Benoît a commencé,
aussi important de l'équipe de France, même si c'est
ce qui est certain et t'as commencé à en parler, Benoît, c'est qu'il y a des joueurs qui étaient très attendus et qui ont été testés tout au long de la semaine et qui n'ont pas répondu présent. Pavard, Thuram, Zahir Emery. Et il y a peut-être quelque chose dont on ne parle pas assez depuis hier soir. C'est que tout simplement, cette équipe allemande était peut-être à un niveau supérieur à ce que l'équipe de France attendait.
Eh oui.
Ça, c'est peut-être quelque chose, quand tu dis sous-estimé, oui, c'est quelque chose qui peut être réel. On s'attendait pas à ce qu'il y ait un circuit de passe aussi fluide dans cette équipe. Oh, oui, bon, il joue sa place. Oh, il est déjà en négociation pour son avenir et vraisemblablement, aujourd'hui, il n'y a rien qui. Il n'y a aucun obstacle à ce qu'il prolonge son 11 de base.
Mais parce qu'il a trouvé son 11 de base, Arthur. Mais Nagelsmann, jusqu'à ces deux matchs amicaux contre l'équipe de France, c'était quand même très compliqué.
Il a fait 3 matchs sans victoire, effectivement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est pas tant le score, moi, c'est la prestation qui m'inquiète, en fait. C'est cette apathie générale qui me gêne, en fait. Je suis d'accord avec toi.
Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, en fait, ce que ce match met en lumière, un problème qui est Didier a et qui est énorme. C'est qu'en fait, quand il n'a pas son 11 complet, t'as une équipe de France qui est pas bonne. Là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Bah, c'est grave.
Je suis d'accord avec toi. Mais n'oublie pas qu'hier, t'as pas Griezmann qui te joue dans l'entrejeu, qui te fait toutes les passes. T'as pas Maignan, effectivement, qui, même si je trouve que Brissamba a pas fait un mauvais match, en tout cas, ça de loin pas été le moins bon joueur sur le terrain. T'as Konaté, t'as Coman qui est pas là. T'as Giroud qui commence pas. Or, pour moi, le vrai numéro 9 dans le système de Didier, c'est Giroud. Et c'est pas Colomboigny. Et c'est pas
Marcus Thuram. Tout le monde te dit, Thuram doit être le nouveau numéro 9. Parce qu'il est excellent avec Inter.
Mais
parce
qu'il devait tester. Ça devait être un test.
Voilà. Et Théo Hernandez qui prend pas le couloir gauche. Bon. Donc là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce match-là met en lumière effectivement un problème. C'est qu'on a un 11 de base qui est très fort. Et les deux dernières Coupes du Monde ont bien évidemment prouvé. Mais par contre, quand ce 11 de base n'est pas là, même si c'est des grands noms qui jouent dans des grands clubs, eh ben, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi.
Attends, Arthur, juste, on donne la parole à Alexandre. Après, tu pourras rajouter quelque chose. Alexandre qui a composé le 32-16 pour participer à Bartoli Time. Salut, Alexandre.
Bonsoir.
Bon, c'est animé, Alexandre.
Alexandre, est-ce que c'est juste un accident? Tu peux pas penser un truc pareil quand même, c'est pas possible.
Ah, mais moi je pense que si, il faut pas s'alarmer. Attends.
Merci, Alexandre. Enfin, un auditeur qui connaît quand même. On va enlever Benoît.
Je
j'ai pris la décision.
Vous êtes fait lobotomiser par Didier Deschamps. Bravo.
Non.
Ça a marché
à ce point-là quand même.
On est réaliste.
Merci de remettre en cause mon expertise football.
Non, je plaisante. Vas-y, Alexandre.
Bon, allez, plus sérieusement, je vais vous dire, c'est un match amical. Les joueurs, ils sont arrivés un petit peu en traînant les pieds alors qu'ils venaient de jouer une joute européenne pour la plupart. Ou bon, beaucoup d'entre eux, en tout cas. Je pense que si on a France-Allemagne pendant l'Euro, on voit tout à fait autre chose. Et on est plus en mesure de rivaliser avec eux.
Je vais vous
expliquer pourquoi. Parce qu'en 2018, l'année où on gagne la Coupe du Monde, on commence 2018 par une défaite 3-2 contre la Colombie.
Ouais. Ah. Donc on devrait être rassuré finalement. C'est bien d'avoir perdu, ça veut dire qu'on va être champion d'Europe.
Je dis pas ça, je dis simplement, faut pas s'inquiéter des champs. À mon avis, il sait des choses qu'on sait pas, il sait ce qu'il fait. Voilà.
C'est-à-dire, il sait des choses qu'on sait pas.
C'est-à-dire que nous, en France, on a la fâcheuse manie, dès qu'on perd, on veut virer tout le monde, on veut les brûler en place publique. Moi, je dis, on va se calmer. On va mettre qui à la place.
Alexandre, c'est pas ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, c'est que c'était le seul match intéressant d'ici à l'Euro. C'est le seul rassemblement avant la liste. Donc, c'était le moment, l'instant T, pour se montrer, faire une bonne prestation.
C'était le moment de se montrer pour les non-titulaires.
Oui, mais c'est important, Marion. C'est important. Oui.
Mais donc, Benoît.
Ils ont raté leur match, je suis d'accord avec toi.
Mais donc, Benoît, ça confirme quelque chose. Et je peux te dire que dans le staff de l'équipe de France, c'est ce que tout le monde se dit depuis ce matin, c'est qu'il y aura plus que jamais de la concurrence sur le terrain. C'est que tout simplement, ceux qui ont été testés n'ont pas répondu présent. Donc, votre place de titulaire reste incertaine. Et donc, à l'inverse de la Coupe du Monde, parce qu'on avait quand même pas mal de certitudes avant la Coupe du Monde, et ben il y aura de la concurrence, plus que d'habitude.
Pardon, mais
c'est aussi simple que ça.
Je vous donne un exemple. Mais au milieu de terrain hier, on a trouvé Warren Zaïre-Emery en difficulté. C'était sa deuxième sélection.
Il a touché que 33 balles.
Après, il a 18 ans. Alors, il est tombé sur Kroos et Gundogan.
Laisse-moi finir, Arthur. J'ai pas trouvé qu'il a été moins bon qu'un Aurélien Tchouaméni, qui lui est un patron, un cadre, le numéro 6 de l'équipe de France. Donc ça concerne
pas même
uniquement les joueurs qui avaient des choses à montrer et un besoin réel de montrer, de prouver qu'ils avaient le niveau de jouer dans cette équipe. C'est un problème global et on a peut-être mal abordé cette rencontre. C'est ce que je vous dis depuis le début, en fait. Voilà.
Bah, quand on prend un but à la 7e seconde, on est peut-être un petit peu groggy aussi.
Oui, mais ça
on
arrive, Alexandre, c'est le foot. C'est pas pour ça que tu sors ton match.
Ça fait partie des impondérables.
Bon. Merci en tout cas, Alexandre, d'avoir participé au 32-16. À bientôt. Ouais. Hein.
Juste une petite conclusion rapide.
Ah oui?
Donc, je suis pas inquiet par rapport à l'Euro. De fait, je suis pas inquiet pour France-Chili à Marseille. Le retour d'Alexis Sanchez au Vélodrome, peut-être.
Oui.
Et comment elle disait, Marion, sur Alexis déjà?
Qu'est-ce qu'elle disait, Marion, sur Alexis?
Elle disait qu'il était payé 300 000 balles par mois, il ne mettait pas un péno contre un 15e Ligue 2.
Voilà,
ben on verra,
tu vois, il va falloir que
France.
Je fasse comme Kylian Mbappé, il va falloir que je dépose mes phrases. Elles deviennent tellement connues.
C'est pas bête, hein.
Alors je dépose mes punchlines.
T'as raison,
tu sais que
t-shirts.
Pierre Dorian, quand Alexis Sanchez a manqué son péno là, avec l'Inter, il a tweeté ma phrase.
Ah, il est bon ce Pierrot, excellent. Et d'ailleurs, Marion, je te donne un rendez-vous, tu vas te régaler demain, 18h, Rotten sans flamme, invité exceptionnel. Jorge Sampaoli, c'est pas beau ça? Sampaoli, invité de Rotten sans flamme, ancien coach de l'OM, ancien sélectionneur du Chili, en veille de France-Chili au Vélodrome. Et c'est vrai que c'est un match particulier, dernier mot avec toi Arthur, mais on pourrait voir beaucoup d'anciens Marseillais au coup d'envoi sur la pelouse. Hein.
Oui, à confirmer avec la séance qui s'est terminée d'ailleurs il y a quelques instants. Alors, équipe à forte connotation marseillaise, avec vraisemblablement le retour de Maignan, on le rappelle, touché tout au long de la semaine. La défense, je sais que ça te fait plaisir Marion, Klose à droite, Théo Hernandez à gauche, une charnière qui devrait être composée de Saliba et de Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Tchouaméni et Camavinga devraient être là, aux côtés, à confirmer, de Matteo Guendouzi. Et puis devant, Colomouani, Giroud et donc Kylian Mbappé en guise de répétition générale avant le classique du 31 mars, que je sais que tu attends aussi avec impatience.
Bon. Exactement. Merci Arthur. Hein. C'est le moment.
C'est le moment de jouer.
19h38, c'est le moment. Vous avez 5 minutes pour envoyer coffre CO2FRE par SMS au 732-16. Il est 19h38 jusqu'à 19h43. Pour tenter votre chance, vous participez au tirage au sort et l'un d'entre vous sera avec nous vendredi à l'antenne et pourra gagner jusqu'à 50 000 euros. N'hésitez pas, envoyez COF par SMS au 732-16. L'alerte vient de tomber, elle peut tomber à tout moment sur RMC. Marion, tu restes là et on reçoit un champion dans un instant, le capitaine de l'équipe de France de natation, Florent Manaudou. Rentrée réussie, il se rêve porte-drapeau. On aura ton avis dans un instant, ne bougez pas, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h,
Bartoli Time, Benoît Boutron,
Marion Bartoli.
19h40 de retour dans Bartoli Time sur RMC. Alors, petit constat, Benoît a quelques petits manques de connaissances en foot, mais on va quand même le garder.
Ah non.
Et en tout cas, c'est le moment où on accueille un immense champion. Ouais.
Vous êtes candide plutôt avec Arthur Perrault tous les deux. Voilà. Vous croyez ce qu'on vous dit? On vous dit qu'ils sont fatigués, oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai,
c'est
Didier.
Fini,
tu as raison. Bon, pardon. Dans 20 minutes, l'After Live, avec un gros match de rugby, l'UBB face au Stade Toulousain. Magnifique soirée présentée par Nicolas Jamin, mais tout de suite, on accueille un champion.
Très très beau départ de Florent Manaudou sur cette finale du 50 mètres nage-libre, avec juste à sa gauche donc Maxime Grousset qui le talonne à 15 mètres maintenant de la fin de ce 50 mètres. Florent Manaudou, bras tendu, tout en puissance, qui est devant et qui va toucher en première position le chrono. 21 secondes 98 centièmes. C'est un tout petit peu moins bien qu'à Nice en début de semaine, mais c'est un excellent chrono. Il salue ses adversaires et il va pouvoir retourner au boulot sereinement. Florent Manaudou, c'est encore un très bon chrono pour le champion olympique de 2012.
RMC, Bartoli, à la folie.
Une montée en puissance en bonne et due forme. Florent Manaudou a réussi son retour à la compétition. 2 victoires en une semaine sur 50 mètres pour le capitaine des Bleus. Julien Richard va en parler avec nous, notre spécialiste natation pardon, qui nous rejoint. Et donc Florent Manaudou est l'invité exceptionnel de Bartoli Time, Marion.
Florent, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu as une journée extrêmement chargée aujourd'hui. Je suis vraiment extrêmement heureuse que tu sois dans mon émission ce soir. Alors, ce week-end, il y avait donc ce meeting à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. Au début de semaine, tu as nagé également à Nice. Et c'était tes deux premières compétitions en grand bassin depuis les mondiaux au Japon l'été dernier. Est-ce que tu es satisfait des chronos que tu as eus ce week-end? Est-ce qu'ils t'ont rassuré sur ton état de forme et sur ta préparation?
Oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Pour les 2,50, c'est vrai que Nice et Saint-Germain-en-Laye, c'était 2,50 qui sont très différents, même si le chrono est le même, la manière était très différente et je suis très content d'avoir gagné les deux. Je suis très content d'avoir fait moins de 22 secondes sur les deux. C'est le temps que j'avais fait en demi-finale l'année dernière au championnat du monde. Donc voilà, on est en pleine période de charge d'entraînement. Donc c'est très bien. On prend beaucoup de repères. La natation française va bien. Donc ça fait plaisir aussi de faire des compétitions devant le public français.
Alors moi, franchement, je t'ai entendu au micro d'RMC, il y a un truc où j'ai vraiment envie de t'interroger. Tu as déclaré que tu avais fait une préparation comme un joueur de tennis. Alors je connais un tout petit peu les préparations de joueur de tennis.
Je voyage un petit peu moins quand même.
C'est-à-dire, s'il te plaît, donne-moi quelques infos. Comment tu t'es préparé comme un joueur de tennis?
Alors en fait, en natation, généralement, on va dans un club et on accepte tout le staff qu'il y a dans ce club-là. Et à partir de 2021, j'ai décidé que c'était moi qui allais choisir mon staff autour de moi et que j'allais pas forcément utiliser les kinés ou les préparateurs mentaux qui étaient internes au club. Donc je me suis mis au centre de mon projet, c'est moi qui décide...
Chef de ta PME.
Exactement. C'est moi qui décide de mes voyages, de mes stages, de mes logements, de mes vols, etc. Et je trouve ça très agréable. Je pense que c'est parce que aussi je suis un athlète un petit peu plus vieux que les autres maintenant. Je suis plutôt sur la fin.
Plus d'expérience.
Exactement. Et j'ai besoin de cette liberté de choix parce que la natation, c'est un sport où on nous donne beaucoup de directives tout au long de notre carrière. Et je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté, donc j'ai trouvé ce moyen-là et je trouve que ça ressemble un petit peu au joueur de tennis. Alors peut-être pas aussi exacerbé parce que le joueur de tennis se bouge toutes les semaines, mais je disais ça plutôt en mettant au centre de ma préparation justement et en créant mon staff tout autour de moi.
Tu vois, Marion, pour être un vrai tennisman, il est même parti à l'époque de l'Open d'Australie en Australie.
Exactement. Il fait tout comme nous.
Pour un grand stage, il fait tout comme vous. Non, mais Florent, c'est vrai qu'il y avait ce début de saison olympique en septembre, de septembre à décembre, où finalement, c'était plus consacré à tout ce qui était sollicitation des partenaires, des médias, et pas trop la natation. Et puis, tu disais, j'attends 2024, le calendrier affiche 2024 pour être dans ma préparation olympique. Ouais. Tu y es vraiment, qu'est-ce que tu as pu travailler et qu'est-ce que ça a changé d'être en Australie comme ça?
En fait, ce que ça a changé de faire 5 semaines en Australie et 4 en Afrique du Sud, c'est que j'avais des semaines complètes d'entraînement et j'avais des week-ends complets de repos. Les Jeux Olympiques en France amènent énormément de bonnes choses, mais c'est vrai que quand on est athlète, c'est très compliqué de pouvoir s'entraîner sans avoir de sollicitations, que ce soit les médias, les sponsors qui nous font vivre, évidemment. Donc voilà, il faut bien gérer tout ça. Et en étant très loin, ça me permettait d'avoir des grandes plages de récupération. Là où en France, j'aurais été peut-être un week-end sur deux à Paris, un week-end sur deux à Marseille pour faire ne serait-ce que 2 ou 3 heures de shooting ou une émission télé ou une émission radio. Donc ça permet vraiment au corps de récupérer et de le rebooster pour une nouvelle semaine d'entraînement.
Florent Malodou, invité exceptionnel de Bartoli Time ce soir avec toi Marion, avec Julien Richard. Marion, tu voulais évoquer la suite de sa préparation olympique.
Alors on l'entend bien justement Florent dans tes propos, on voit que t'aimes bien être aussi seul, tout seul, ouais. Finalement gérer un petit peu ton programme comme t'en as envie. Tu es parti de l'Australie aussi pour aller donc tout seul, sans personne, sans coach, sans rien en Afrique du Sud.
Oui.
Est-ce que t'as hésité un tout petit peu, ou vraiment tu t'es dit non là j'en ressens le besoin, il faut que je change, j'ai pas envie d'être tout le temps non plus qu'en Australie, il faut un peu changer d'air. Pourquoi t'as pris cette décision?
En fait, au bout de 5 semaines en Australie, je trouvais que le temps était un petit peu long. Il y a aussi un gros décalage horaire avec la France, donc c'était un petit peu compliqué justement de faire les débriefs, un petit peu compliqué de faire des choses avec les sponsors, avec les médias, parce qu'il y a quand même 8 ou 9 heures de décalage horaire, donc il fallait que je me couche tôt, que je me lève tard pour faire ces choses-là que je faisais quand même par visio. Et à la base, en fait, je devais partir 10 semaines en Australie, c'était mon plan initial. Et ouais. Je me suis dit, voilà, je voulais faire l'hiver au soleil dans l'hémisphère sud. Ma copine était en Afrique du Sud à Stellenbosch, où je m'étais déjà entraîné avec James Gibson en 2020, donc je me suis dit, fonce, t'as 4 semaines. Ça me faisait un petit peu peur de tricher avec moi-même, de me dire là il y a des séances que je ferai pas, mais en fait quand je me retrouve seul, j'ai personne avec qui tricher, donc au final je vais à toutes les séances, je suis très content, j'ai envie de me prouver à moi-même que j'arrive à nager, même si c'est pas un sport facile, que j'arrive à faire du bi quotidien et à faire des belles séances et à me pousser sans avoir un coach derrière moi. Mais évidemment j'avais quand même ce besoin de rentrer en France pour avoir des yeux qui me regardent, qui me corrigent sur ma technique, d'avoir un groupe autour de moi de temps en temps pour me motiver. Mais voilà, c'est un petit peu des fois j'y vais pour me libérer de tout ce Paris 2024 où les gens m'en parlent quotidiennement. C'est vrai que ça fait du bien d'être un petit peu à l'étranger de temps en temps.
Florent Malodou, le capitaine de l'équipe de France de natation, en direct dans Bartoli Time ce soir. Marion.
Alors Florent, moi, il y a un autre aspect de ta personnalité que j'aimerais beaucoup aborder avec toi. Et je me souviens de ta sœur Laure qui avait parfois besoin de s'évader aussi. Est-ce que tu te retrouves en elle parfois dans ton comportement? Tu as besoin aussi d'être heureux, un petit peu plus seul, de t'auto-responsabiliser pour arriver à performer?
Je pense qu'avec avec ma sœur, on a évidemment des similitudes. En fait, je pense que la natation ne rend pas forcément heureux si c'est mal fait. Donc il faut beaucoup s'écouter, parce que c'est un sport où on est que dans l'effort pur. Il n'y a pas de notion de jeu dans la natation. On ne joue pas à la natation. On ne peut pas parler. C'est un sport qui a la dure. Donc il faut qu'on arrive à trouver notre équilibre entre le côté mental, plaisir, et le côté performance. Et je pense que c'est moi ce que j'ai trouvé depuis 2021, c'est ça. Alors physiquement je suis un petit peu moins bien parce que je vieillis et qu'il faut que je récupère mieux, il faut que je fasse beaucoup plus attention à ce que je mange, etc. Donc quand on est en fin de carrière, on a plus d'expérience, c'est fait pour ça. Mais c'est sûr qu'avec ma sœur, on a énormément de similitudes. On a l'impression qu'on est un peu je m'en foutisse, mais c'est juste qu'on protège notre liberté. Et qu'on a envie d'être bien dans notre peau pour performer, parce que c'est primordial. Être bien physiquement, on est tous capables de le faire, entre guillemets. Mais pour performer, il faut aussi être dans un état d'esprit mental qui est parfait lors des grands championnats, des Jeux Olympiques. Donc je protège ça, et partir à l'étranger me fait me protéger de ça aussi.
Enfin, moi, j'aimerais bien être je m'en foutis, ça va au palmarès, vous avez tous les deux. Franchement,
on dit de nous qu'on est je m'en foutis.
Tout de suite.
Ouais, on dit de nous qu'on est je m'en foutis, mais on l'est pas vraiment.
Non, exactement, ça c'est clair.
Florent, ce serait tes quatrièmes jeux, ce seront tes quatrièmes jeux à Paris, donc tu t'y connais en attente aussi derrière tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette spécificité des jeux à Paris? Comment tu ressens ça? Tu dis toi-même, t'as ressenti le besoin d'aller t'isoler de tout ça, de toutes ces sollicitations, cette effervescence autour des jeux à Paris. Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que vous en parlez aussi entre nageurs? Voilà, comment tu ressens ça toi? Est-ce que c'est plus dur aussi peut-être?
Plus dur, non, si c'est bien géré, c'est pas forcément plus dur. Il faut arriver à naviguer un petit peu à travers tout ça. Je suis très content d'être un athlète expérimenté, que ce soit mes quatrièmes jeux potentiels, parce que pour l'instant je suis pas qualifié, donc j'aime pas dire que je vais au jeu encore, même s'il y a de grandes chances. Mais c'est l'attente populaire est beaucoup plus forte que lors des Jeux Olympiques qui sont pas à la maison, parce qu'on en parle de partout, parce que quand on va dans des piscines, par exemple, j'ai fait un shooting il y a deux jours dans une piscine, c'est marqué Paris 2024 de partout. Il y a des villes qui sont qui nous soutiennent. Les gens entendent parler des Jeux Olympiques et une politique sportive qui a évolué depuis quelques années. Donc évidemment, les gens nous en parlent, les gens veulent qu'on leur ramène de l'émotion, parce que les Jeux Olympiques, c'est ça pour eux, c'est se mettre devant la télé ou dans les gradins et qui vivent de l'émotion grâce à des personnes qui font des performances sportives. Sauf que derrière ça, il y a des êtres humains et c'est compliqué parfois de naviguer autour de ça. Donc voilà, moi je le gère plutôt bien. J'arrive à faire des choix où justement je m'isole pour reprendre un petit peu l'énergie du public. Par exemple, ce matin, j'ai fait une séance d'autographe et on parle que des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc ça fait du bien. Mais ça fait du bien ponctuellement, pas tous les jours de l'année.
Florent Maloudou, invité exceptionnel de Bartoli Time, et forcément Marion, à quelques mois des Jeux de Paris, tu voulais aborder cette fameuse question des porte-drapeaux.
Alors Florent, moi je vais aborder un autre aspect avec toi sur les Jeux Olympiques, pas la pression du résultat, mais la partie des porte-drapeaux. Oui. Tu en as parlé, tu l'as évoqué, c'est quelque chose que tu aimerais vraiment réaliser, hein, comme une espèce de rêve aussi d'enfant, être porte-drapeau de la délégation française. Les critères du CNOSF ont été divulgués, ils ont rajouté d'ailleurs quelques lignes dans ces critères. Ça ferait de toi un candidat idéal, puisque tu coches absolument toutes les cases. Ça te ferait quoi si c'était toi qui étais désigné porte-drapeau?
Je serais très fier de pouvoir l'idée l'équipe de France, ne serait-ce que sur la cérémonie d'ouverture qui serait unique, qui serait pas dans un stade, ce serait génial déjà. Et essayer de l'idée aussi l'équipe de France et d'être avec eux tout au long des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui me fait rêver, parce que quand je vois les porte-drapeaux précédents, c'est des gens qui ont été des inspirations pour moi. Donc j'estime que si jamais un jour je suis porte-drapeau, ça voudra dire que je suis peut-être aussi une inspiration pour des jeunes, et ça me ferait ultra plaisir, et c'est en plus.
Donc ça sera pas une pression supplémentaire pour toi, au contraire?
Non, au contraire, ce sera quelque chose qui me galvanise. Je sentirai que les gens seront derrière moi pour ce rôle-là, et que en plus je suis très content que ce soit les athlètes qui choisissent, parce que le public c'est bien, mais et les politiques c'est bien aussi, mais les Jeux Olympiques, c'est les athlètes avant tout pour moi. Et je suis très content que ce soit tous les athlètes aussi, et pas seulement deux athlètes par fédération, parce qu'on peut vite tomber dans quelque chose d'un petit peu politique. Alors que là, c'est vraiment les affinités, plus ou moins, ce qu'on représente, etc. Et chaque individu qui ira aux Jeux Olympiques aura une voix, et je suis très content de ça.
Et Marion, il y a un truc qu'on rappelle, je trouve pas assez, mais dans le palmarès de Florent, être triple médaillé consécutivement sur la même épreuve aux Jeux Olympiques et potentiellement être médaillé une quatrième fois consécutive, je crois qu'il n'y a que Phelps en natation qui l'a fait chez les hommes, c'est quand même pas rien. Flo, c'est un truc que tu as en tête, ça, ce côté historique, et qui finalement amènerait aussi, qui peut porter une délégation.
Non mais Flo, un palmarès exceptionnel, Julien, je te le confirme.
Ouais. En fait, on me voit toujours comme le petit frère de l'ordre, c'est normal, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'années de natation quand même. Mais oui, ça me ferait plaisir de faire une quatrième médaille consécutive, pas forcément pour égaler quelques records, mais déjà pour moi-même, me dire que j'ai réussi à être consistant sur 12 ans de ma carrière, sur une épreuve qui demande énormément de précision, ça me ferait plaisir. Je ne sais pas s'il n'y a que Phelps, je crois que Laszlo Tché a eu 4 médailles sur... mais peut-être que c'était des épreuves différentes, mais ouais, mais en tout cas durer deux Jeux Olympiques c'est bien, trois c'est très bien, quatre c'est vrai que c'est un rêve de pouvoir donner à la France comme ça des émotions pendant si longtemps, et je le ressens hier sur le 50 mètres quand je m'avance vers le plot, les gens me poussent et me soutiennent, donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils m'ont suivi pendant toutes ces années.
Alors ça sera ma dernière question, Florent, avant de te laisser. Est-ce que tu sais ce que tu fais le 8 mai prochain?
Le 8 mai prochain, je serai très certainement à Marseille pour...
Alors ça tombe bien.
Pour la flamme olympique qui arrivera,
voilà,
sur le
exactement.
BLM.
Exactement. Donc tu t'entraînes à Antibes, mais tu es licencié à Marseille, au Cercle des Nageurs, il me semble. Porter la flamme dans une ville que tu apprécies. Alors je suis supportrice de l'OM, donc je ne vais pas dire que c'est pas bien. Est-ce que ça serait aussi déjà un rêve?
Oui, alors pour l'instant, je serai à Marseille le 8 mai parce que ça me tient à cœur. Je ne sais pas si je porterai la flamme. C'est très honnête, j'ai pas encore eu de retour là-dessus.
C'est le CNESF qui te contacte. Ça se passe comment?
Je ne sais pas encore qui va me contacter. C'est très proche, mais en tout cas, j'ai réservé ma date et je serai à Marseille.
Ah, c'est bien.
Voilà. Donc moi, c'est ma ville de cœur, Marseille. C'est ma ville qui a fait. De moi, de passer de l'adolescence à l'âge adulte, qui a fait passer l'athlète potentiel à l'athlète champion olympique. Donc c'est vrai que Marseille, c'est une ville qui me tient à cœur, c'est une ville que j'aime. Je suis toujours licencié à Marseille d'ailleurs. Et si j'ai pu porter la flamme à Marseille, ce serait un grand plaisir. En plus, Marseille, c'est une ville d'eau. Il y a la mer à côté, donc ça aurait du sens.
Marion, je crois qu'il est marseillais un peu, mais il est quand même supporter de l'OL, Flo. Hein.
On m'a prévenu dans le casque, on m'a dit Julien va dire une bêtise. Bon voilà, bah, je m'y attendais, donc elle est dite. Bon, en tout cas, Florent, je te remercie infiniment d'avoir participé à mon émission. Bien sûr, RMC sera radio officielle des Jeux Olympiques, donc on te suivra avec la grande attention. Et puis si tu veux quelques conseils tennis, je suis dispo.
Merci beaucoup Marion, je viendrai après les Jeux avec grand plaisir.
Merci pour tout. Merci. Et bonne chance surtout.
Merci beaucoup.
Et merci à Florent Manaudou qui était avec nous, 19h56. Marion, je te pose la question tout simplement. Qui doit être porte-drapeau de la délégation française? Il y en a un par sexe. Est-ce que Florent Manaudou est le candidat idéal?
Ah bah franchement, quand même, il est extrêmement gentil. Il a un palmarès absolument exceptionnel. Ça serait sa quatrième Olympiade. Donc oui, pour moi, c'est le candidat absolument idéal, même si c'est très, très difficile, franchement, de choisir entre Renaud Lavillenie, entre Nicolas Batum, entre éventuellement Kevin Mayer, s'il arrive à se qualifier. Pareil pour Renaud Lavillenie, qui n'a pas encore réalisé les minima, parce que ce sont des champions français que j'ai du mal à entre guillemets, prendre parti pour l'un, voilà, pour l'un ou pour l'autre. Mais je trouve que Florent Manaudou, pour l'accomplissement de toute sa carrière, pour ses derniers Jeux, pour tout ce qu'il a réalisé, pour un sport vraiment qui est emblématique aussi des JO, qu'est la natation, ça serait un magnifique clin d'œil. Et chez les filles, je pense à Estelle Nzemiko, parce qu'effectivement, les sports co sont pas souvent mis en avant pour les porte-drapeaux. Il y avait eu Jackson Richardson qui, pour le hand, avait eu cet honneur en 2004 à Athènes, ou éventuellement Estelle Mosley, parce qu'elle avait totalement illuminé les JO de Rio, et ça serait aussi un beau clin d'œil. Donc, mon cœur balance, mais effectivement, de toute façon, je suis persuadée que ça seront... ils représenteront parfaitement la France.
Ça sera une Estelle pour les filles, quoi. C'est ce qu'on a compris.
Oui, enfin, en tout cas, c'est là où va mon choix. Je ne sais pas ce que vont voter les autres athlètes. Hein. Bon. Je ne me mets pas à la place des autres athlètes, que je n'aurai pas cette pression.
Marion, dans un instant, l'after live avec Nicolas Jamin, avec Julien Brugnot. Une belle affiche de top 14, UBB, Stade Toulousain, Marion.
Absolument, une magnifique affiche de top 14 pour finir cette soirée sur RMC. Moi, je vous retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h sur RMC. Je vous souhaite entre-temps une excellente semaine à tous. Au revoir.
RMC, 19h-20h.
Bartoli Time.